le soi-disant. Bon. Sauf que quand ils sont fous, moi je les fous dehors. C'est là je réagis. Moi j'ai un très beau souvenir de Lacan, chassant quelqu'un de chez lui. C'était magnifique. J'étais jeune. J'ai eu très peur, mais enfin. J'arrive dans une livre, comme ça je traverse la cour et je prends la porte là, vitrée en bas de l'escalier, au fond de la cour, pour monter la première volée d'escalier. Et quand j'ouvre la porte, j'entendais Lacan qui gueulait. Il était au premier étage et il y a un type qui descend l'escalier comme ça, en rongeant le mur. Moi je suis passe à côté en essayant d'éviter la pluie, l'orage, tout. Je passe et je rentre, je vais dans la salle d'attente. Bon, et Lacan était en train de l'insulter dans l'escalier. Il le traitait de salaud, fumier, salopard. Et Lacan continue. Il rentre dans l'appartement, il laisse la porte de l'appartement ouverte, il rentre dans l'appartement, il ouvre la fenêtre de la cour et il continue à insulter le type qui traversait la cour.
C'était génial.
Quand on me parle de la réserve, de l'analyse, vous savez, le type à qui on peut marcher sur les pieds puis qui vous dira toujours merci, c'était pas Lacan du tout. Vous voyez ? Bon. Ce qui prouve bien que pour comprendre ça, il faut arrêter dans ces espèces d'images d'épinal de la psychanalyse. La psychanalyse, c'est sûrement pas du yoga. Enfin, mais le yoga, c'est pas du yoga, parce que le yoga pour nous, enfin, qu'est-ce que ça veut dire faire du yoga sans connaître l'écriture du sanskrit, ou c'est la même chose que le tir à l'arc sans connaître l'écriture du japonais, je sais pas. Moi, je pense qu'il faut, si on veut, je pense qu'on peut très bien s'intéresser, même se consacrer et se vouer à des techniques néolithiques et ancestrales et très lointaines ou très proches, mais il faut rapporter ça sérieusement à l'écriture, sinon c'est du tourisme. Voilà ma politique. Hein. Bon. On peut lire la Bible, mais il faut la lire en hébreu, on peut lire le Tao Te Ching, mais il faut le lire en chinois. Lacan, il dit ça comme ça, il dit du temps béni du Tao, et puis il dit, moi je l'ai pratiqué. Qu'est-ce que ça veut dire, Lacan dit, il dit ça au nom de RSI, dans les questions auxquelles il répond, quand Miller l'interroge. Lacan, il dit, j'ai pratiqué le Tao, ça veut dire, j'ai étudié le chinois, voilà, le Tao, ça c'est un texte qui se lit. Et c'est ça, pratiquer. Hein, donc, pratiquer la psychanalyse, comment voulez-vous pratiquer la psychanalyse sans lire Freud en allemand et Lacan en français? C'est pas une pratique. Je suis désolé, je suis navré pour les thérapeutes, mais la pratique de l'analyse, c'est d'abord. Alors, on va me dire, ah, mais c'est trop théorique ou c'est livresque, comment on pourrait étudier la psychanalyse en lisant seulement. Bon, je ne mets pas une seule seconde en question le fait, mais je le mets d'ailleurs d'autant moins que je le mets beaucoup plus sur le tapis, le fait que le territoire fait partie du problème dans le narcissisme, de cette fonction imaginaire du phallus. Et donc je suis un des premiers même à dire que le tableau, la feuille de papier, c'est aussi, ça fait partie du territoire. Hein, c'est une façon de rentrer par la question la plus difficile dans l'analyse. C'est la notion d'objet A. Je pense qu'il ne faut pas écraser l'objet A comme ça, mais on pourrait faire remarquer simplement que dire objet A, c'est déjà tout un programme. Ça veut déjà dire qu'un truc qui ne se trouve pas dans Kant, c'est que chez Kant, dans l'intuition, la sensation donne des objets, et que les objets pour Kant, ce n'est pas les lettres que pourtant ma sensation me fournit aussi à mon intuition. Hein? Et qu'avec les lettres, on ne fait pas la même chose que ce que dit Kant des objets qui sont dans l'intuition, grâce à la sensation. Dans Kant, on les conceptualise, alors que ces objets-lettres, on les lit. Donc vous voyez, il y a quelque chose de spécifique. Et bien sûr que ça nous intéresse de voir jusqu'où ça va à travers le narcissisme, cette lecture, cette lisibilité. Mais est-ce que ça va jusqu'où? Regardez, c'est pour ça que Kailua est intéressant à lire. Kailua, c'est quelqu'un qui essaye d'inventer les sciences transversales. Lacan le cite hein, dans le stade du miroir, dans son texte sur le stade du miroir. Kailua, c'est quelqu'un qui va s'intéresser à la montre religieuse, aux animaux, donc. Le mythe et les hommes, vous voyez. Bon, est-ce que Kailua c'est Jung justement? Voilà, est-ce que c'est Warburg? Bon, c'est cet endroit-là qu'on n'ose pas aller fréquenter, parce que c'est vrai qu'on peut devenir con. Si vous tenez pas la rente de l'écriture, y compris l'écriture mathématique, qu'il ne faut pas exclure. Je dis pas qu'il faut faire que ça, qu'il faut pas l'exclure. Ça fait partie du problème. Si vous vous interrogez sur la matérialité de l'écriture et l'acte de lecture, l'acte analytique, c'est un acte de lecture. C'est ça la tâche analysante, c'est se mettre à la tâche de cette étude. Bon, alors jusqu'où ça va, Kailua, il va ensuite s'intéresser aux pierres images. Vous savez, c'est des fossiles, des d'arbres qui ont été congelés dans le sol pour devenir des pierres, et qui sont des pierres avec... C'est vrai que ça laisse rêver, ça laisse rêveur. Ben justement, la question, c'est là qu'il faut voir que Freud, les rêves, il propose de les lire. Et le problème est de savoir, je vous dis, est-ce que les planètes écrivent? Est-ce que les chiens parlent, mais ils n'écrivent pas? Voilà. C'est un trait distinctif fondamental, mais qui est assez difficile à manier, parce que justement, on ne sait pas jusqu'où ça va, où ça commence et où ça finit, quoi. Et c'est ça, bien, la question qui est au cœur de l'analyse. Freud, il avait beaucoup de mal à s'expliquer là-dessus. Regardez l'histoire avec Hume, il arrête pas de dire, de se le dire. Il dit non, ça va pas. Les épiphanies de la commode qui craque, pour Hume, la commode participe à la discussion. Freud, il dit, bon, consciencieusement, j'ai calculé les fréquences. Eh bien, je vous promets, la commode, elle ne participe pas à la conversation. Bon, voilà pour le lien entre l'imaginaire et le symbolique. Eh bien, il y a quelque chose de réel qui tient ça. Bon. Alors, nous, moi, ce que je vous propose modestement, c'est d'élargir le champ d'investigation pour mener ça de front avec d'autres travaux.
Alors, est-ce que la forte fusion, je vous repose la question, que vous prononcez le symbolique, est-ce que la forte fusion est-elle un trou dans le symbolique?
Alors, pour moi, pour l'instant, c'est Lacan l'a traité de trou dans son texte sur la question préliminaire. Hein. Mais pour moi, la question préalable au traitement des choses psy, c'est la question... Les questions préalables, c'est les questions auxquelles on ne peut pas répondre et auxquelles on ne répondra jamais. Là, je fais référence à ce que dit Heidegger de la question préalable dans ce livre-là qui vient de sortir, qui s'appelle « La logique comme question en quête de la pleine essence du langage ». C'est son cours de logique de 1934, hein, quand il vient de quitter le rectorat nazi. Bon. Et dans cet ouvrage, il en vient à poser, il dit que la question du langage, c'est la question préalable. Mais la question préalable pour la psychanalyse, elle est encore plus précise que ça. Je pense que Lacan, il a dû lire ces choses-là très tôt, dans les années 30 ou 40, parce qu'il les lisait en allemand. Là, ça vient de sortir en français, mais ça existe en allemand depuis un moment. Bon, toujours est-il que la question préalable, Heidegger en parle d'une manière intéressante, et je pense que Lacan, il l'a appelée question préliminaire, et ensuite, dans l'étourdi, il l'appelle préalable. Il lui arrive de changer, de jouer, de glisser, comme c'est la loi de la parole. La parole travaillée par l'écriture, ça n'empêche pas de changer les mots. C'est pas la langue de bois. La parole, c'est pas l'écriture. Bon, mais la parole est travaillée par l'écriture, ça s'entend. Hein, je vous dis, c'est comme quelqu'un qui ne sait pas danser ou qui ne sait pas manier un balai. Pour balayer une pièce, ça se voit, ça se lit. Bon. Alors la question, c'est de sortir ça, préciser ces dimensions du langage, qui spécifie le langage. Et donc là, c'est intéressant. Lui, il traite de la logique comme logos, et il dit que le langage, c'est la question préalable à la logique. L'essence du langage, vous voyez, logique comme question en quête de la pleine essence du langage. Bon, moi, je suis assez partisan de ça. Alors, qu'est-ce que dit Lacan sur quelle est la question préalable au traitement des choses psy? C'est propos sur la causalité psychique 1948. Et notez ça, je viens de faire cette petite découverte parce que ça avait échappé à mon attention de lecteur depuis longtemps en lisant le livre de Marie-Laure Susini qui fait un truc qui s'appelle Éloge de la corruption. J'ai trouvé le titre et puis la quatrième de couverture, c'est déjà pas mal. Alors je suis aussi un peu rentré dedans. Et ben elle dit, elle, que la corruption, les incorruptibles sont des psychotiques, sont des gens dangereux. De toute façon, ils sont des gens dangereux. Bon, elle remonte à Saint-Paul, qui a introduit le terme de corruption et d'incorruptible, la corruption du corps. Et ensuite, elle parle évidemment de Robespierre et de Saint-Just. Bon. Et de la terreur. Alors, question préalable, voyez, ce qui se passe dans cette histoire, c'est que Marie-Laure Susini, elle commence par Orwell et elle finit par Orwell, c'est-à-dire le 1984. Vous avez remarqué qu'il l'a écrit en 1948. Et son livre, il l'a appelé 1984. Bon. Mais la même année, et ça, Marie-Laure l'a pas lu, mais moi, c'est grâce à elle que je m'en suis aperçu, c'est la même année que Lacan, il écrit Propos sur la causalité psychique. Moi, je prétends que Propos sur la causalité psychique, c'est plus fondamental encore en matière de terreur et de totalitarisme que Orwell. Bon, Orwell, je suis d'accord avec Marie-Laure, c'est pas mal. C'est pas mal, Orwell. Mais enfin, même si Simon Leys fait aussi des commentaires pas mal à propos d'Orwell et défend Orwell qui a été attaqué de diverses manières, Lacan, il est plus malin et beaucoup plus subversif même que Orwell. En 1848, Lacan, il écrit un truc qui n'intéresse absolument aucun de ses élèves. Pour l'instant, et moi ça fait 20 ans que je dis ça, je l'écris, je le chante, je le crie, je le publie, que pour piger quelque chose à la psychanalyse, d'une part, aux difficultés de la psychanalyse, à la difficulté que la psychanalyse nous pose à chacun de nous, de faire notre analyse, il faut 1948, il faut lire chez Lacan, c'est les propos sur la causalité psychique. Voilà. Et 10 ans plus tard, psy, chic. Voilà. C'est chic, psy. Bon. C'est l'histoire de psy, bon, ce que Foucault appelle la fonction psy, là, il y a eu une conférence là, il y a 2 semaines là-dessus, par un type qui vient de publier les leçons de Foucault, où il parle de cette fonction psy. Bon. Foucault, ça me paraît très très faible. Tous ces gens-là n'ont pas lu Lacan, ils n'ont pas le temps. C'est ce que dit Foucault à Dussert. On n'a pas le temps, il faudrait 5 ans, il faudrait consacrer 5 ans à Lacan. On n'a pas le temps. Bon. C'est peut-être un peu fatal que quelqu'un ne fasse pas, sûrement pas l'unanimité, mais ne présente pas beaucoup d'intérêt pour ses contemporains. C'est peut-être pour ça que moi, c'est peut-être la seule chose que je peux, qui fait que j'ai aucun mérite dans ce que je fais, sinon que, avec mon petit talent de géomètre, il se trouve que je me suis trouvé là, à ce moment-là. J'ai connu Lacan, et ce que je dis, c'est qu'on peut avoir connu Lacan, lire Lacan, et en tirer quelque chose que ceux qui ne lisent pas Lacan ne peuvent pas. Et Lacan, il s'est même acharné à faire en sorte que ceux-mêmes qui voulaient le lire, ils n'y arrivent pas. Bon, donc c'est quand même, effectivement, ça paraît une stratégie assez douloureuse. Bon, toujours est-il que ça, il l'a fait dans un discours à l'adresse des psychiatres, de son copain, qui était son collègue de salle de garde, comme il dit, Henriet. Il se moque de lui au début. Bon. Alors, la forclusion vient 10 ans plus tard. Donc l'action préalable, elle est résolue. C'est pas la forclusion. Et il parle d'un trou. Il dit que là, il y a quelque chose qui n'est jamais venu, et quand un signifiant, spécialement du nom du père, vient à cet endroit-là, bon, alors c'est un trou dans quoi? Si on dit trou, il faut se poser la question, un trou dans quoi? Bon. L'intérêt de parler de la forclusion comme trou, il semblerait que ce soit un trou dans le symbolique. L'intérêt de parler de la forclusion comme trou, c'est de voir que Lacan parle du trauma comme trou aussi. Alors c'est la question justement sur laquelle tout le monde patine allègrement. Il y a qu'est-ce qu'il y a là d'impossible du côté du trauma dans l'entrée dans l'appareil, qui serait le trou réel. Là, quand on dit la droite infinie, c'est un trou réel, parce que c'est l'Urverdrang, c'est aussi l'un des termes Urverdrang, originaire, premier, là, les choses. Originaire, ur vers le grand, c'est quelque chose où on se dit, bon, vous voyez, moi je me souviens même d'un article d'Annie Cardiff qui n'était pas sans intérêt, dans lequel elle s'interrogeait sur cette notion de narcissisme primaire et de narcissisme. Primaire, originaire. Moi je vous ai dit la semaine dernière, il fallait plier le temps, plier le graphe, plier. Il faut faire des relevés linéaires, développemental, même comme Freud dans les lettres à Fliess, mais ensuite il faut se voir que Freud il se posait la question. Comment ça peut se plier? Moi, je prétends que Lacan, il a accompli ce pliage et le dépliage. C'est-à-dire que ça se plie et ça se déplie. Il y a une dynamique. Et donc la forclusion, maintenant, j'ajouterai un point comme trou. Si c'est un trou dans le symbolique, quel trou ? Lacan l'illustre comme un trou dans le schéma R, hein, la forclusion, à l'époque des propos sur la causalité psychique. C'est donc un trou dans une surface. C'est un trou comme rupture de surface. Il y a trois trous, il n'y en a pas un, il y en a trois dans le schéma I. C'est un plan projectif, un schéma R troué trois fois. Mais le trou dont il s'agit, c'est une surface et un trou dans la surface. Et c'est un trou dans la surface. Lacan l'appelle à un moment donné, dans l'étourdi, il dit c'est un trou comme rupture de surface. C'est ma boutonnière, vous voyez. C'est un trou comme ça. Vous avez une surface de l'étoffe, vous avez un trou dans l'étoffe. C'est un trou, on va le dire, c'est un trou imaginable. Bon. Mais ça, c'est parce qu'à ce moment-là, il est en train d'écrire les termes du discours de Schreber, de la théodicée de Schreber, de la construction schreberienne, de son délire, sur un plan projectif, justement. Donc le trou, il est un trou de surface. C'est un trou dans l'étoffe sur laquelle s'écrit... Bon, c'est une question intéressante. Quelle est l'étoffe sur laquelle s'écrit le rêve, sur laquelle s'écrit le délire ? Regardez le problème de ce que dit Hans, le petit Hans, là c'est dans la névrose, dans la phobie, le petit Hans, il dit bien que la girafe, la grande girafe, la mère, on ne peut pas s'asseoir dessus parce qu'on ne peut pas la chiffonner. Vous voyez, la grande girafe, on ne peut pas la prendre comme ça. Tandis que la girafe qui est dessinée sur un papier, on peut chiffonner le papier et on s'assied dessus. Donc ça fait moins peur. C'est une façon de résoudre le problème de la girafe, si on a des problèmes avec la girafe. C'est pas seulement d'avoir peur, pour lui, c'est vraiment l'angoisse. Mais là, vous voyez, Lacan faisait remarquer qu'un nœud comme ça, si vous le dessinez sur un papier et que vous froissez le papier, c'est comme si vous faisiez ce nœud avec de la ficelle et puis que vous froissez la ficelle, ben ça reste toujours le même nœud. Alors que si vous prenez la Joconde, que vous en avez une photo, que vous la mettez sur du papier, vous froissez le tableau de la Joconde, c'est plus la Joconde. La Joconde froissée n'a plus du tout la même fonction que la Joconde mise à plat, bien repassée. Voyez. Alors que les nœuds, si vous les mettez sur du tissu ou sur du papier, ou bien si vous les faites en ficelle, vous pouvez les tordre dans tous les sens. Ce sera le même. Il y a une espèce de quelque chose qui se maintient. C'est ça qui, c'est déjà, c'est un objet de réflexion. Bon. Alors j'en viens à ce trou. Il y a une différence entre chercher à écrire la forclusion, qu'est-ce que c'est que la forclusion, l'illustrer plus ou moins, l'écrire, le représenter, comment en rendre compte. Eh bien, moi je propose maintenant de faire un saut et de prendre la tapisserie par l'autre côté et de se dire, s'il s'agit d'écriture, moi ce que je constate de ce qui est forclos chez les paranoïaques, je vais vous raconter une histoire simple, d'une dame charmante qui a dit ça l'autre jour, j'étais pas loin d'être assis sur le cul quand j'ai entendu ça, mais enfin je trouve ça charmant parce que vous voyez, pour moi c'est pas de la psychopathologie, c'est un cas de forclusion. Quelqu'un qui dit, en parlant d'une dame qui était montée chez un monsieur après le dîner pour aller boire un coup, hein, le monsieur la raccompagne et puis en passant près de chez lui il dit on pourrait monter chez moi boire un coup. La dame, elle monte, et puis elle boit un coup, puis ensuite, elle ne veut pas aller au lit. Ah ! Alors, les avis, là, sont partagés. Il y a des gens qui disent, eh ben oui, il y a quelqu'un qui a dit ça. Parce qu'il y en a qui disent, ah bon, si on va dans la nuit, après le dîner, boire un coup chez un monsieur comme ça, c'est déjà un engagement qui est assez prononcé pour que ne faut pas s'étonner qu'ensuite, il fasse du judo. C'est-à-dire qu'il essaye de faire un croque aux jambes à la dame pour la faire tomber sur un pajot, comme on dit. Eh ben non, il y a une dame qui dit, eh ben pas du tout, tant que c'est pas dit, hein, on y va ou on n'y va pas. On peut aller boire un coup chez quelqu'un. Ben, c'est une question de lecture, ça, vous voyez, c'est une question de signification, c'est une question d'incorporel. Moi, je dis que si, moi, j'ai été comme vous tous, on a tous des points de forclusion. Moi, je me souviens de l'ophrase charmante de mon enfance, hein, bon. Je peux vous donner d'autres exemples, mais si on veut parler sérieusement de clinique, c'est quand même un fait de forclusion, c'est un trou, c'est-à-dire il y a une sorte de déficit dans le tissu, hein, quand quelqu'un dit faut que tout justement soit cousu, il ne faut pas qu'il y ait de trou. Vous voyez ? Et que donc, si on n'a pas dit, hein, tant qu'on n'a pas dit, alors on couche, tant que ce n'est pas dit, il n'y a pas à lire quoi que ce soit qui serait déjà écrit. Parce que c'est de la signification. C'est pas écrit textuellement. Voilà. Pour moi, la forclusion, ça commence par ceux qui refusent qu'il y ait quelque chose à lire qui ne soit pas explicitement écrit. Qui croient que la lecture, c'est la lecture de, qui dépend de l'encre sur le papier. Moi, je prétends que lire, justement, c'est lire entre les lignes. Ça s'appelle l'intelligence. Donc, là, pour moi, la forclusion, vous voyez, c'est pas terrible, la théorie de Lacan, c'est pas très nouveau. La théorie de Lacan, dire le psychotique, c'est le type, il y a une forclusion, il y a un trou. C'est quoi le trou et la forclusion? Ben, c'est un défaut d'intelligence. Bon, et ça nous arrive tous, parce qu'on est tous des cons. Vous voyez? Alors le problème, c'est que ça envahit plus ou moins. Bon, c'est-à-dire que quand ça a fini par être. Vous voyez, quand ça envahit le corps social, parce que ça prend en otage l'État et que le connard de psychotique en question, là je parle du psychotique, vous voyez, mais en fin de compte, la structure psychotique, le processus psychotique conduit à organiser des transports ferroviaires pour emmener des juifs dans des camps de travail et d'extermination, qui deviennent des camps d'extermination, et tout ça au nom du fait que ces gens-là, ils sont, alors certains vont essayer de nous l'interpréter en disant c'est un problème religieux, ou ethnologique, ou ethnique, mais pas du tout. C'est un problème, c'est que les juifs, c'est pas n'importe qui, c'est des gens qui sont ceux du livre. Et ce sont ceux qui ensuite ont fait l'école, et qui sont partout, et qui se représentent dans l'histoire de l'Occident et du monde entier, parce que il se trouve que l'Occident chrétien, il est encore. Il fait partie de la Terre, donc à la surface de la Terre, ça ne peut même pas ne pas intéresser les Chinois. C'est le fait, ou les Indiens, ou les Esquimaux d'Alaska, c'est le fait qu'il y a, une tribu, la tribu d'Israël, qui a réalisé un texte, un livre. Il y a un livre qui s'appelle la Bible, on a fixé le corpus au début de l'ère chrétienne, là, assez tard. Mais n'empêche que ça a donné quoi? Ça a donné une histoire, c'est le début de l'histoire. Cette histoire, ça commence par une destruction du temple, dans lequel, soit dit en passant, il n'y avait rien, d'après Alexandre. Il y a donc une espèce d'ascèse comme ça, de la représentation, et il y a de la lettre, et il y a de l'écriture, et puis vous voyez que ça fait une histoire, et que vous avez tout un peuple qui se retrouve dispersé, et qui est au milieu des autres, et qui est justement illisible. Il est éminemment lisible, mais en même temps, il est tout le temps en train de poser à tout le monde le problème de « Ah ben oui, il est d'ici, et c'est pas un des nôtres. » Ah, vous voyez ? Donc, celui de la ségrégation humaine, parce que c'est, je dirais, l'antisémitisme, c'est juste un petit cran de plus qui est terrible. Mais c'est juste une étape, mais vraiment très très proche de quoi ? Ben de ce qui nous occupe dans la différence des sexes, par exemple, les hommes et les femmes. On peut toujours s'en sortir par l'anatomie, hein ? On peut toujours dire que oui, il y a les mecs qui ont une quéquette et les filles n'en ont pas. La différence anatomique entre les sexes, moi je nie pas ça du tout, vous avez un texte de Freud là-dessus, mais ça ne nous oblige pas à nous rendre compte que la différence des sexes est aussi de l'ordre de la lisibilité. Et regardez, je vous donne un exemple à contrario, qui est dans notre sujet, là, Joyce et Freud, Oedipe et Hamlet, vous réfléchissez à ça. Voilà ce qu'il faudrait qu'on arrive à sortir du séminaire 6 et du séminaire 23. Hein, comment Lacan est préoccupé par cette question entre symptôme et symptôme? Je vous dis, c'est la même chose, c'est les deux boucles d'un tour. Comment distinguer? Alors, comment il le dit à propos des hommes et des femmes? Ben, il y a ce très beau lieu où ça se présente justement d'une manière extrêmement. Lacan le dit dans le séminaire, hein, et il l'écrit dans le texte qui s'appelle Joyce, le symptôme. Il dit, les hystériques, qu'est-ce que c'est qu'une hystérique ou un hystérique? Qu'est-ce que c'est l'hystérique? L'hystérique, c'est symptôme dernier. Une femme est un symptôme pour l'homme. Et il y a des femmes qui ne veulent pas être des femmes. Il y a des sujets, on va dire, il y a des sujets. Vous voyez, c'est là que ça commence à devenir de la lisibilité. Il y a des sujets qui ne veulent pas, n'est-ce pas, qui ne se prennent pas, qui ne veulent pas être pris, mais qui ne veulent pas se prendre pour, donc qui ne sont pas fous, au sens de la folie de 1948, chez Lacan, hein, puisque le fou, c'est celui qui se prend pour, le petit con, là, qui a un papa ou une maman, et puis qui est un peu chicouse, justement. Celui qui se prend pour, c'est le fou. Eh bien, justement, l'hystérique, c'est un sujet qui ne veut pas être pris, mais qui ne se prend pas, et qui ne veut pas se prendre pour une femme. Et Lacan dit, bien sûr, il y a beaucoup de femmes anatomiquement qui sont hystériques, parce que c'est vrai que si on ne veut pas se prendre pour une femme et qu'on est désigné comme femme, ça se voit plus. Et ça incite beaucoup de femmes anatomiques à devenir hystériques parce qu'elles ont des raisons d'être prises pour une femme. Alors comme elles ne veulent pas être prises pour une femme, elles le développent, l'hystérie. Mais il y a des mecs très doués pour ça, dit Lacan. Regardez, Saint Jean de la Croix, il écoute une femme qui s'appelle Sainte Thérèse. Alors justement, qu'est-ce qu'elle est, Sainte Thérèse? Peut-être qu'elle ne veut pas justement se prendre pour une femme. Elle se prend pas pour une femme et elle ne veut pas qu'on la prenne pour une femme. Et qu'est-ce qu'elle est? Elle est hystérique. Alors Lacan dit ces symptômes derniers. C'est eux qui s'intéressent aux autres comme symptômes, ne voulant pas être symptômes pour les autres, hein, ne voulant pas se prendre pour un symptôme. Eh bien, ça conduit à plein de figures cliniques multiples que vous pouvez imaginer et d'autres que vous n'imaginez pas, et que c'est justement l'intérêt de la psychanalyse de vous les faire découvrir. Il y a des endroits où vous n'imaginerez pas, entre le fait de ne pas vouloir être une femme dans le coït, ou de ne pas vouloir être une mère, ou de ne pas vouloir être la femme de monsieur machin, ou de toutes les façons de possibles et imaginables, de lutter contre ce fait femme, hein, pour l'hystérique. Ça peut prendre, c'est ça l'intérêt de la clinique qui n'existe malheureusement pas beaucoup, en dehors de Freud et de Lacan, c'est-à-dire des développements cliniques où on pourrait voir que l'hystérie se glisse et conduit des sujets à des situations qui ne sont pas du tout dites phénoménologiquement ou grossièrement ou bêtement ou anatomiquement hystériques. C'est-à-dire que l'hystérie, c'est certainement un lieu... Vous avez un très joli livre sur l'hystérie. Lisez le truc. C'était chez Navarin. Ça s'appelait L'hystérie et son maître. C'est Gérard Wajmann qui a fait ça. Je vous conseille ça. Lisez-le parce que vous allez voir qu'est-ce que c'était que Babinski. Par exemple, Babinski à Sainte-Anne, hein, il savait faire comme ça, pof, des délires hystériques. C'est encore mieux qu'à Louvain, hein, du temps des inquisiteurs et du roi Louis. Je crois que c'était Louis XIII. Bon. Vous voyez, Babinski, il savait, c'est pour ça que l'hystérie, les grandes figures de l'hystérie collective, elles ont disparu. Bon. Mais l'hystérie, c'est pas ça, c'est pas seulement ça. Lacan nous dit, l'hystérie, c'est, vous voyez, donc, c'est à propos de la forclusion, de la lisibilité, vous voyez, c'est passionnant. Parce que justement, la psychose, la forclusion, c'est refuser de s'occuper de ça. Donc nous sommes une civilisation particulièrement paranoïaque et psychotique, si vous voulez aller par là. Parce que le fait, je ne vais pas vous faire un couplet sur le fait que les enfants, ils n'apprennent plus à lire, à l'école et tout ça. Il y a toujours des experts de l'éducation nationale qui viennent vous dire, mais non, pas du tout, on a toujours dit ça. Regardez, au contraire, maintenant, ils font beaucoup plus de choses. Regardez, Internet, tout ça, ils confondent tout. Bon, c'est un fait. Moi, je suis assez sensible à ce que dit Lévi-Strauss. Il dit, regardez, Lévi-Strauss, ce n'est pas une mauvaise plume. Hein. Ce n'est pas quelqu'un qui a mis sa lecture dans sa poche. Et ben, il dit c'est quand même extraordinaire de lire, par exemple, la dissertation de philosophie du baccalauréat de Marcel Mauss. Lisez ça, il dit. Ben, écoutez, ils écrivaient quand même, c'est la génération là, qui a fait la guerre de 14. Hein. Mauss, c'est un rescapé. On lui en a beaucoup voulu d'ailleurs, ils auraient dû tous crever, paraît-il. Bon, donc un pauvre rescapé, lui, il s'est retrouvé au Collège de France. Ils étaient tous morts autour de lui. Bon. Et ça empêche que Marcel Mauss, il faisait une dissertation de baccalauréat, Lévi-Strauss, il dit c'était génial, ils écrivaient comme moi, j'écris pas, j'y pense, j'y réfléchis, mais j'écris pas comme ça. Bon, c'est pas sûr que. C'est une question très intéressante de savoir. C'est pas pour se battre la coupe, mais c'est de voir que c'est comme les structures freudiennes du symptôme, c'est comme la culpabilité qui n'est pas une structure freudienne du symptôme, c'est pas de l'hystérie, c'est pas de la névrose, donc c'est pas de la perversion, c'est pas de la psychose, c'est pas la psychanalyse, mais aussi bien ce dont nous traitons dans la psychanalyse, c'est on est étouffé, si on est un peu lecteur, on est étouffé, nous sommes dans cette civilisation qui est la nôtre, progrès technique, technologique, magnifique, moi je crache pas du tout là-dessus non plus. Mais si on oublie de voir à quoi ça tient et qu'il faut lire, écrire et parler pour faire ces choses-là, hein, eh bien, si on confond les choses, si on réduit et qu'on rigidifie le mythe comme ça à être quelque chose qui se rapproche de lui-même comme ça, pour être comme ça, voyez-vous, et puis qu'à la fin, ça peut même devenir un simple rond sur la bande de Möbius. Ça c'est la traversée du fantasme. Mais si on ne fait pas marcher le truc comme ça et comme ça, c'est-à-dire qu'on ferme et on ouvre et on ferme, si ce n'est pas souple, si ce n'est pas pratiqué, si ce n'est pas accompli en acte, hein, ben, on ne se rend pas compte, on est complètement immunisé, on n'est plus du tout sensible aux secousses de la vérité. C'est une expression de Lacan. Hein. On est devenu immunisé contre les secousses de la vérité. Et je vous promets que la culpabilité inconsciente, les mecs qui me disent que à quoi ça sert la psychanalyse, tout ça, moi je vous dis la psychanalyse, ça sert à proposer, à laisser à la disposition de qui veut s'y engager, à s'engager dans sa vie, en commençant par sa vie privée, par sa vie intime, par le souci de soi, si vous voulez, bon, d'accord. Ça, c'est peut-être le prétexte qu'on prend. Nous, on n'a pas à le favoriser, puisqu'on sait que ça ne s'arrête pas là. C'est le souci de soi jusqu'au souci des autres. Mais le problème de rentrer dans un... Déjà, de se déculpabiliser en reprenant pied dans sa responsabilité de quoi ? De sujet. De sujet du langage. De sujet du langage qui peut transformer n'importe quoi en n'importe quoi. C'est ça, le phonème. Qui peut transformer, donc, je vous dis, un avion de ligne en missile. Il n'y a pas à s'en étonner. Bon. C'est le rôle de la police et du renseignement que de nous protéger de ça, mais quand même, on ne peut pas empêcher, c'est ce qu'on sait malheureusement que trop actuellement, on ne peut pas empêcher les types qui sont prêts à se faire sauter le caisson avec, de faire des trucs qui sont abracadabrants, et ça rend la vie effectivement impossible. Bon. Donc le problème, il est bien là. Il est que là, on est immunisé contre la culpabilité inconsciente qui baigne partout. Il n'y a qu'à voir le trou de la sécurité sociale, enfin, la manière dont ça se somatise, comme on dit. Lacan faisait cette remarque, il disait, si un jour l'État s'apercevra que, sans jamais financer la psychanalyse, mais qu'il faut favoriser, il faudrait politiquement favoriser la psychanalyse, parce que le trou de la sécurité sociale, il serait résolu par le fait de favoriser la psychanalyse. Parce que quand on est en analyse, si on est dans l'analyse, si on est dans la tâche analysante, on est beaucoup moins malade. Lacan, il dit ça dans le séminaire. Et moi, je considère que c'est extrêmement judicieux et précis. Ça veut dire que c'est pas du tout de dire il faut aller faire une analyse. Non, mais si on ne tenait pas des propos stupides et dégradants qui dégradent ceux qui les tiennent à propos de la psychanalyse, comme c'est le cas pour essayer de la faire rentrer dans ce qu'on essaye de la faire rentrer, c'est-à-dire dans Orwell, en 1984, actuellement, avec les psychothérapies, les antennes psychologiques, enfin, le contrôle des sujets par une technique supplémentaire. Bon, il y a le management, il y a le marketing, il y a la publicité, il y a tout ce que vous voulez. Il y a l'école, c'est vrai que l'école, c'est fait pour faire des bons citoyens. Depuis la Chine, on fait des mandarins, remplir des formulaires avec des gages, et puis, bon, il faut être un peu fada comme dans ma famille. Moi, on m'a élevé en me disant que faire des études, c'était exercer sa curiosité aussi loin qu'on pouvait. Moi, j'ai jamais parlé de formulaire à remplir. C'était pas pour ça que j'étudiais à l'école. Bon. Alors, vous voyez, on peut, c'est une question de discours, de discursivité. Et alors, l'autre chose contre laquelle on est parfaitement immunisé, c'est cette question de l'hystérie. Elle est certainement beaucoup plus... Et c'est pas une maladie, c'est un fait, c'est une variation du désir. C'est une variation sur le désir. Il faut devenir esthète. Il faudrait devenir esthète en symptôme au lieu d'être là à dire clinicien pour faire comme le docteur. Le clinicien, c'est quelqu'un qui est un amateur, mais pas un amateur justement, qui serait là pervers à vouloir observer chez l'autre. Non, Il faut déjà avoir commencé par le faire chez soi pour savoir ce que c'est, cette façon de lire dans sa propre existence. Quels sont tous ces traits que je vous dis qui sont signalés par Marcel Mauss dans son manuel d'ethnographie. Si vous voulez avoir un manuel pour savoir comment apprendre à lire la forclusion dans votre vie comme dans, autour de vous, et c'est un problème intime et politique, et c'est pas de l'intime au politique, on baigne là-dedans. Lisez le manuel d'ethnographie de Marcel Mauss.